Non.
Ah non.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Et bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, un fantôme, on est ici pour avancer.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bienvenue dans ce nouveau Canu Info. Nous sommes le jeudi 18 février 2021 et nous sommes ensemble pour une heure d'information, d'actu, de potin peut-être, allez savoir. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer dans une telle émission. Alors nous allons vous parler avec Laurent de plein de choses. On va vous parler d'énergie et d'environnement et pour ça nous irons au Groenland. Nous parlons d'innovation aussi avec Laurent. Moi je vous parlerai un petit peu de presse ce soir, on ira se balader. Un petit peu dans le monde, on ira en Hongrie, en Australie, on parlera du canard enchaîné. Et puis avec Laurent, nous partirons en Espagne, nous parlerons de solidarité aussi, de ni Dieu ni maître, un slogan que nous apprécions particulièrement, ouais. N'est-ce pas?
Oui.
Et puis j'espère bien avoir le temps de vous parler d'un truc qui est vachement bon, qui est un petit peu cancérigène, mais qui est vachement bien et qu'on trouve depuis le 9 septembre 2020 dans nos petites assiettes.
Ah bon?
Ouais.
Dans les nôtres, là?
On n'est pas dans les scandales.
Ah ouais. C'est à moi?
Oh oui, je t'en prie.
Donc, moi, je commence ce Canu Info en parlant d'un peu d'énergie environnement et que deux petites infos. La suite de l'info de la semaine dernière sur le Groenland, puisqu'il y a une suite, et oui. Donc, c'est les membres alors du Parlement local, qui s'appelle Inatsisartu. Alors, je ne suis pas sûr de prononcer très bien cette langue que je ne pratique que très peu. Donc ce parlement groenlandais ont infligé un vote de défiance au Premier ministre Kim Kielsen mardi dernier. Donc en gros, ils l'ont viré. Ça veut dire ça, un vote de défiance. Hein. Alors il était quand même à la tête du gouvernement depuis 2014. C'est un ancien leader du Parti social-démocrate. Et bon, on lui reproche alors, une mauvaise gestion des affaires, globalement, et une pratique verticale du pouvoir. Oui, bon. Et puis, en fait, il y a un scandale autour du sujet de la semaine dernière, des mines. Donc, la controverse, en fait, est montée en une semaine autour d'un autre projet minier que celui dont j'ai parlé la semaine dernière. Projet minier dans le sud, forcément dans le sud hein, de l'île du Groenland. Un projet minier qui attaque, comme je l'ai dit la semaine dernière, le but, c'est de trouver des terres rares et de l'uranium. L'extraction inquiète énormément les riverains et les associations de défense de l'environnement. Alors petit à petit, cette polémique a gagné le gouvernement. Et là, ça s'est écharpé entre les différents partis. C'est une coalition, en fait. Il y a pas mal de petits partis. Le Parti social-démocrate, enfin une partie de ses membres, ont plaidé pour le report des consultations publiques liées à ça, aux mines, du fait de la pandémie, notamment pour permettre aux experts internationaux de venir participer au débat sur l'impact des mines sur l'environnement. Et puis les autres ont dit un peu l'inverse, et puis ça s'est écharpé même au sein même du Parti social-démocrate. Parce qu'au départ, hein, chez les sociodémocrates, donc c'est le centre, on va dire le centre libéral de l'échiquier politique, ils étaient partisans du projet. Les libéraux sont toujours partisans d'avoir des mines, de faire plus d'argent. Enfin, vous connaissez le libéralisme comme moi. Le problème, c'est que là, il y a d'autres enjeux. Ça s'est vu que ça allait tout bousiller. Et donc, il y en a une partie qui ont reculé. Et c'est ce recul qui a entraîné donc, la démission de plusieurs ministres, notamment issus de la droite et des membres de la coalition au gouvernement. Et suite à ça, il y a eu le vote et quelque part la destitution du Premier ministre. On rappelle que les risques sur ces mines concernent les populations locales, mais aussi les éleveurs et surtout les pêcheurs, hein, parce qu'il y a des risques de rejet aussi dans la mer. Il y a aussi une inquiétude sur le tourisme qui s'est développé au sud du Groenland. C'est plutôt négatif que ça soit développé, c'est des régions un peu protégées. Mais comme ça dégèle beaucoup l'été, maintenant, il y a plus de personnes qui viennent. Et c'est quand même l'endroit du Groenland où il y a le plus de biodiversité. Vous me direz, au nord, c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est ultra gelé tout le temps. Il y a un peu moins de vie, mais il y en a quand même, n'oublions pas. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a eu aussi cette affaire avec les 141 ONG qui se sont mobilisées contre les projets dont je parlais, donc extraction minière notamment de la part d'Orano sur l'uranium, mais aussi sur le pétrole, sur le gaz, qui ont lieu au Groenland. À 70 projets en cours, il y a un gros souci, un manque d'équilibre entre la destruction de l'environnement ou la protection de l'environnement et la volonté de profiter des richesses du sous-sol sur un pays, ou enfin, c'est pas tout à fait un pays, mais enfin une île, c'est une île le Groenland, qui est assez pauvre au départ, voilà. Les enjeux environnementaux, du coup, prennent de l'importance et c'est plutôt rassurant. Ah oui, deuxième petite info, j'en ai une deuxième. Oui, alors je dis, tiens, je vais présenter un truc qui pourrait être positif, des innovations. Je vais faire un peu une rubrique innovation sur le Canu Info. Un truc que j'ai trouvé marrant. Alors, le but, vous savez que dans les ports marins, pas les ports qu'on mange, les ports marins, on a toujours des digues un peu partout pour calmer la houle, pour permettre aux bateaux après de rentrer sans être trop secoués, grosso modo. Il y a un projet de digue relativement révolutionnaire qui s'appelle une digue houlomotrice. Je vais expliquer ce que c'est. Elle s'appelle Digway. C'est un groupe qui s'appelle Legendre, une entreprise, qui a testé ça dans la rade dans le port de Brest. Pour l'instant. Alors, c'est développé depuis 2 ans en partenariat avec l'IFREMER, l'institut qui s'occupe un peu de la mer, avec une petite PME qui s'appelle GEPS Techno, qui est spécialisée, elle, dans les énergies renouvelables. Parce que l'idée de cette digue, c'est de mélanger à la fois une digue classique qui a pour rôle de calmer la mer ou l'océan, mais aussi de fabriquer de l'électricité. Donc le système est plutôt ingénieux. D'un côté, on a des sortes de volets qui permettent à l'eau des vagues, de la houle, de rentrer et d'actionner des systèmes qui permettent de fabriquer de l'électricité. Donc c'est intéressant. Il y a déjà pas mal de petits projets sur l'énergie des vagues. Alors on sait, il y a une grosse centrale, un lag sur l'énergie des marées, mais là c'est juste sur l'énergie des vagues. Vous savez, ça monte et ça descend en fait mécaniquement. Si vous restez sur le même point, vous voyez monter et descendre si vous mettez un flotteur par exemple. Il y a des moyens de récupérer cette énergie peu à grande échelle encore. Et donc l'idée, c'est de faire un autre test avant de faire un autre test, parce qu'ils l'ont testé dans les labos de l'IFREMER, ils l'ont testé à pas mal d'endroits, de faire un gros test en grandeur quasi réelle pour valider avec un projet qui se mettra en place en 2024. Et l'intérêt, d'après le groupe, cette entreprise, là, Legendre, c'est qu'en fait, cette digue, elle coûterait le même prix qu'une digue classique. Donc ça veut dire que pour le même prix, vous avez d'électricité qui est fabriquée, qui pourrait servir à moult applications. Mais ça rappelle surtout, et ça casse un peu le discours ambiant qu'on a, qui dit le seul moyen de s'en sortir, c'est des gros moyens centralisés de production. Vous savez, le truc typiquement français de la centralisation extrême dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de l'électricité. On a en France 50 sites de production qui produisent 80% de l'électricité, qui sont les centrales nucléaires. Il y a plein de pays qui fonctionnent avec des choses beaucoup plus décentralisées. Et l'idée, ça serait peut-être de décentraliser au maximum, avec d'avoir des millions de petites sources, parce que l'électricité, on peut en faire partout, à condition que le bilan énergétique soit positif. Hein. On rappelle, il faut calculer l'énergie grise, que l'énergie utilisée pour fabriquer, pour entretenir le système, que ce ne soit pas plus que l'énergie qu'on va retirer du système. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a des petits projets comme ça qui peuvent changer la donne, et c'est peut-être en changeant des petites choses qu'on arrivera à des choses plus importantes plutôt que de changer des gros systèmes. Il faut virer les gros systèmes, quoi.
Nous allons aller dans ton sens. Je vais parler de presse maintenant, et d'abord par vous donner quelques chiffres, puisque l'ACPM, un nouveau sigle pour ce jeudi 18 février 2021, peut-être que vous le connaissez, c'est l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Et
oula,
oui, ça existe.
C'est quoi ça ?
Nous a donc donné la semaine dernière des chiffres sur la diffusion, la vente des 589 marques de presse. Pour l'année 2020. Alors, beaucoup s'attendaient à une année extrêmement catastrophique pour 2020, due à la crise sanitaire.
Et puis la faillite de Prestalis.
Tout à fait. Donc, tout le monde se disait que ça allait être une catastrophe. Alors, la catastrophe, elle n'est pas tout à fait là. On va dire, c'est pas si pire. Donc, les ventes ont baissé de 1,5%. Il faut savoir qu'en 2019, la baisse avait atteint 3,6%. Et en 2018, 4,2%. Donc, tout de suite, on va se dire que ça ne cesse de baisser, c'est
ça,
certain,
c'est
ça c'est une réalité, mais c'est pas si pire. Alors, il y a une raison pour laquelle c'est pas si pire, c'est que l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, a neutralisé, c'est le terme qui est employé, les mois de mars à juin. C'est-à-dire les mois tout pourris.
Ah oui, les enlever.
Ont été neutralisés, ça s'appelle.
Non mais, effectivement, cette année 2020, tout ce qui s'est passé entre mars et juin ne peut pas être compté dans tous les domaines.
Ça a été neutralisé sur le comparatif. C'est-à-dire que l'idée, c'était de savoir, entre du coup juillet 2019, juillet 2020, août 2019, août 2020, janvier 2019, janvier 2020, c'est-à-dire que l'idée, c'était de comparer mois par mois en enlevant mars à juin sur
les
comparatif, parce que du coup, c'est effectivement pas représentatif, et que ça allait évidemment montrer une baisse certaine, et donc ça montrait pas la tendance du marché, comme on dit. Donc, ça a été enlevé pour éviter des calculs de tendance erratique. Je cite encore l'ACPM. Puisque les titres, hein, ils n'ont pas pu être distribués, tout simplement. Hein, donc, ça a été un vrai problème. Alors, il y a donc ce phénomène. Et puis, si c'est pas si pire, c'est qu'il s'est passé une toute petite chose aussi en 2020 qu'on attendait sur une période de 2 à 3 ans dans cette progression. C'est-à-dire que c'est d'aller beaucoup plus vite que ce qui s'est passé en 2020, c'est la conversion du papier au numérique. Ça a été évidemment un phénomène assez important, puisque les gens ne pouvant plus récupérer leur papier facilement, se sont mis au numérique, et puis il y a eu aussi une volonté de s'informer qui a été réelle, et donc des gens ont décidé de s'abonner, de payer du numérique, plutôt que juste de parcourir la presse comme ça sur Internet. Ou alors, évidemment, ceux et celles qui allaient d'habitude l'acheter n'étaient pas abonnés, se sont mis à payer des journaux de la presse en ligne. Et ça, c'est un marché qui est plutôt pas mal, hein, finalement, et qui a permis, en fait, de redresser un petit peu la barre. Et c'est surtout la presse régionale, d'ailleurs, qui a profité de ce phénomène numérique. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'il faut prendre en compte qu'il y a des grandes disparités, évidemment, entre la presse nationale, quotidienne, la presse régionale quotidienne, et puis le magazine de loisirs, de divertissement qu'on peut trouver, hein, comme Automoto, que tu aimes beaucoup, Laurent.
Ouais, non,
je
mais
le sais que tu lis en cachette.
Ouais, c'est ça. Ou les les magazines, pas de divertissement, de culture générale.
Et ben, c'est du divertissement, la culture générale.
Oui, les scientifiques, voilà. Tout ça, là, il y a plein de choses.
Voilà. De loisirs, donc on appelle ça de la presse de loisirs. Donc, il y a évidemment des grandes disparités. Le Monde enregistre une très forte progression. Sur le numérique, on retrouve Libération et l'Humanité, Les Échos et le Figaro, qui se sont bien tenus finalement grâce au numérique, même si on le sait que c'est des journaux, des quotidiens dont la presse papier s'érode année après année. Voilà, alors par contre, évidemment, il y a un titre qui a chuté péniblement, c'est l'équipe.
Ouais.
Puisque n'ayant plus rien
ils avaient
chroniquer.
Même plus... c'est ça, eux, ils ont perdu le fond. Ils ont galéré sur la forme.
L'équipe a tenté pendant un moment de s'accrocher à du revival. Hein, on va vous faire des trucs vintage, on va vous raconter des choses passées, on va vous raconter l'état des sportifs, qu'est-ce qui se passe. Mais au moment, le lecteur il s'ennuie un peu. Et puis au niveau quand même du contenu, c'est pas toujours très agréable. Hein, il faut trouver de l'idée. Hein. Donc voilà, il y a des titres comme ça, comme l'équipe, hein, qui ont vraiment pris une petite claque hein, quand même cette année. Mais c'est pas les seuls. C'est vrai qu'il faut quand même se dire aussi que tout ce qui a été magazine culture, à chroniquer, c'est pas facile.
Il n'y avait plus rien. Beaucoup moins de choses.
En fait, il faut se diversifier, c'est-à-dire qu'il a fallu, évidemment, les pages théâtre étaient différentes, les pages littérature, même cinéma, hein, il suffit de voir, par exemple, la page Canard Enchaîné sur le cinéma, et on vous chronique ce qui se passe sur les plateformes à la place de ce qui se passe en salle. C'est un bouleversement, un petit peu, évidemment, mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a des pages qui ont dû se réinventer, ça n'a pas été facile pour certains journalistes, hein, je pense, et certaines journalistes qui, ne pouvant chroniquer le spectacle vivant, se sont trouvés un peu le nez dedans l'ennui. Et puis c'est marrant, je vous parlais du Monde là parce qu'il y a un article sur ce phénomène dans Le Monde et Le Monde s'étonne de l'érosion de deux secteurs hein, dans le magazine, c'est le magazine télé et cuisine, alors que le confinement et le couvre-feu amènent les gens à devoir cuisiner à la place d'aller au restaurant et se mettre davantage à regarder la télévision. Alors pour tout dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent des magazines télé alors qu'il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche, il y a quoi ce soir à la téloche. Je ne l'ai pas fait, mais je suis à peu près sûre qu'on trouve directement le truc du jour. Et puis, par contre, pour la cuisine, c'est vrai que c'est plus étonnant, parce qu'on nous a expliqué que les Français et les Françaises, dans les études, s'étaient mis à beaucoup cuisiner. Donc, dans son ensemble, on peut dire que ça tient, faussement, grâce au numérique, mais ça ne veut pas dire que la presse, d'une manière générale, ne perd pas, évidemment, des ventes chaque année. Ça amène des changements. Alors, une fois qu'on a posé un petit peu ce contexte de la presse, on peut déjà noter une toute petite chose, c'est que le Canard Enchaîné a augmenté son prix pour la première fois en 30 ans.
Et puis beaucoup, hein, parce qu'on est passé de 1,20€ à 1,50€, donc ça fait beaucoup d'augmentation.
Qui rattrape.
Et ça rattrape des années. Alors, ça reste pas cher, 1,50€.
Non,
vous avez 8 pages sans aucune publicité, 8 grandes pages sans aucune publicité, avec de l'info de partout, des dessins humoristiques, des dessins d'actualité. Voilà, c'est imbattable, hein, même à 1,50€. Il faut savoir qu'ils ont perdu quand même beaucoup d'argent dans Prestalis.
Ouais.
Et pour la première fois, d'ailleurs, le Canard Enchaîné perdait de l'argent. Alors, c'est sur un truc à court terme, etc. Mais ça les a obligés à se moderniser, puisqu'on trouve le Canard en numérique. Ce qui est une horreur absolue pour moi qui lis le Canard depuis 25 ans en papier. Mais voilà, ça oblige du coup à se bouger. Et effectivement, il y a une augmentation pour que le Canard continue d'exister. C'est un des rares journaux, et c'est le seul journal à grand tirage, indépendant, c'est-à-dire sans publicité. Voilà.
Pardon, je fritille du nez,
mais
à grand tirage, Charlie Hebdo a quand même un sacré
tirage. Ouais. Ils sont quand même en dessous en termes de tirage.
Mais reste quand même, on est sur de toute façon de la presse spécifique qui peut se permettre de ne pas avoir de publicité dans ses pages, politiquement et au niveau de la trésorerie, bien évidemment. Alors, je voulais aussi vous parler de cette affaire. Si vous lisez le Canard, vous avez évidemment vu ce papier qui s'appelle « Envol de canard à la médiathèque ». C'est quand même marrant ce qui se passe hein, parfois dans des municipalités. Là, on va à Sassenage. Sassenage, que le Canard Enchaîné a déjà critiqué, chroniqué hein, dans ses pages. Là, c'est le maire Christian Coignet, maire UDI, qui prend une drôle de décision. Apprend-on, puisque... Alors, c'est une affaire aussi qui, grâce aux réseaux commerciaux sociaux, a pris de l'ampleur, hein, puisque des gens ont été, malhonnêtes qu'ils sont, ces gens, photographier une petite pancarte sous où est rangé le Canard Enchaîné dans la médiathèque bibliothèque, expliquant que l'abonnement était supprimé pour le Canard Enchaîné et que les gens n'allaient plus pouvoir trouver le Canard Enchaîné.
C'est la raison qui est drôle.
C'est la raison qui est drôle. Alors... Évidemment, cet article est très sarcastique de la part, moqueur, hein, de la part du Canard Enchaîné, évidemment, puisque c'est tout récent, hein, ça date d'il y a quelques jours, hein, cette circulation de photos, donc l'abonnement est supprimé, puisque ça ne correspond pas à la politique culturelle de la ville.
Alors, c'est pas la première fois que dans une médiathèque, suivant les articles qu'il y a dans les journaux, que les journaux disparaissent, hein.
Alors, évidemment, on peut se dire...
D'habitude, c'est plus l'extrême droite.
Y aurait-il censure un petit peu hein, cachée là, sous cette idée? Alors, il paraît qu'en fait, ce n'est pas vraiment la raison, puisque la raison serait un soutien total et entier au canard enchaîné, comme au dauphiné libéré, d'ailleurs, qui a aussi vu la petite case où il était rangé se vider.
Sûrement pour la même raison.
Voilà, aussi, pour des problèmes de concertation politique, peut-être. Hein,
en fait, il dit, le maire... Bah, en fait, comme je le mets plus, ça oublie, parce qu'un journal, il faut que les gens l'achètent, pas qu'ils le lisent à la médiathèque ou à la bibliothèque. Donc, on s'abonne plus, comme ça, les gens sont obligés d'aller l'acheter. Alors déjà, il oublie le rôle de la bibliothèque, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir avoir accès
à l'information. Mais même ceux qui ont de l'argent, c'est un accès primordial à la collectivité.
Et je ne suis pas sûr qu'il y ait, ça joue beaucoup les quelques dizaines de lecteurs. Donc, c'est vraiment une réponse hypocrite de ce maire. De sa stage, pas très loin de Grenoble, je crois.
Mais quand même, c'est un argument qui est quand même vraiment dangereux. Contrairement à ce qu'il a l'air de penser, ce monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on ferme les bibliothèques parce que les livres, c'est pareil, il faudrait soutenir la filière livre.
Ça empêche les gens, ils achètent moins.
L'édition, et du coup, si on les met plus dans les bibliothèques, les gens seront peut-être obligés d'aller en acheter. Du coup, on peut fermer les médiathèques, les bibliothèques. Bon, je pense même qu'on va d'ailleurs fermer les théâtres parce qu'on va tous se mettre à jouer nous-mêmes. Comme ça,
ah ouais.
Hop, tu vois, on va tout arrêter. Donc, c'est quand même un argument qui, du coup, se retrouve complètement débile. Enfin,
très fallacieux.
Ça, débile. Et puis, je vous propose maintenant de partir en Hongrie, parler de, encore une fois, de Club Radio. Alors, Club Radio, c'est une radio privée, indépendante, qui n'aime pas le pouvoir en place et qui se bat depuis l'arrivée de M. Orban au pouvoir, depuis 10 ans, contre ce gouvernement qui a eu des ennuis, qui a eu des problèmes financiers à cause, évidemment, de cette politique de M. Orban, pu survivre, il faut le dire, grâce au soutien de ses auditeurs et auditrices, grâce à des appels à dons. Ça, c'est quand même ce qui a permis à cette antenne de pouvoir perdurer, de se battre quand même contre une politique de censure de la part du gouvernement Orban. On est bien sur une politique de censure. Alors, depuis dimanche, minuit, Club Radio n'existe plus sur les ondes en Hongrie. Pour écouter Club Radio, il faut se rendre sur Internet. La radio a perdu son droit.
Ils ont perdu la fréquence, qui va être récupérée sûrement par, a priori, une radio proche du pouvoir.
Oui. Alors... Il faut se souvenir qu'entre 2010 et 2014, Club Radio avait déjà perdu 12 fréquences provinciales, régionales, provinciales, on dit plutôt en ville d'ailleurs. Donc ça restait cette radio-là sur Budapest et alentour restait quand même extrêmement importante pour un tas d'auditeurs et d'auditrices. Restait aussi un contre-pouvoir à M. Orban. Et pour une raison, ma foi, vraiment fallacieuse, il faut le dire, Club Radio a perdu donc son droit d'émettre. Alors, c'est intéressant parce que il faut savoir qu'à Radio Canu, nous demandons donc une autorisation d'émettre fréquemment. C'est pas très compliqué, hein, vous inquiétez pas, on demande au CSA, on remplit un dossier qui n'est pas très compliqué à remplir, et puis jusqu'à présent, tout se passe bien. Tant qu'on a l'autorisation.
Tant qu'on n'a pas un gouvernement autoritaire qui fait sauter les
alors, on n'ira même pas autoritaire, on dira même fasciste, parce que c'est ce qui se passe là en Hongrie. Hein. On est quand même sur un gouvernement fasciste.
Alors qu'en France, le risque il est énorme, puisque c'est une seule instance d'État, le CSA, qui décide tout.
Hein. Donc, on a un équivalent qui s'appelle le Conseil des médias. Le sigle, c'est NMHH, a été créé en 2011 sous l'idée de M. Orban, et tous les membres sont nommés par le gouvernement. Ah, là, comme ça montre déjà une grande transparence. Et ce conseil des médias, en septembre 2020, a refusé donc de prolonger, au-delà de ce 14 février, la licence de diffusion de la radio. J'ai oublié de vous dire quand même, mais c'est quand même 200 000 auditeurs et auditrices, donc c'est pas rien quand même. Hein. Puis la radio, c'est toujours compliqué à savoir qui l'écoute et qui l'écoute pas. Hein. C'est toujours un peu que les études que nous on trouve un peu pourries, mais parce qu'on n'en a pas à Radio Canu et qu'on n'en veut pas surtout. La radio, elle est accusée d'avoir remis des documents administratifs, c'est-à-dire c'est ce petit dossier dont je vous parle, en retard. Et donc ça enfreint la loi sur les médias, cette fameuse loi des médias en 2016 qui est apparue et qui avait déjà été largement critiqué, puisque je vous rappelle qu'il y a des regroupements de médias maintenant en Hongrie, c'est-à-dire que c'est des médias de propagande d'État, que la loi, elle est extrêmement répressive envers les journalistes et que c'est extrêmement compliqué de faire son travail. Et donc, cette loi a été mise en avant pour sanctionner Club Radio et donc définitivement la censurer. Alors, c'est une case que nous, on connaît à Radio Canut, puisqu'il faut la remplir. Vous savez, les radios sont obligées...
de déclarer en France le pourcentage de chansons françaises, enfin de musique française, avec le chant en français, en fait, qui compte.
Et pas que, c'est-à-dire qu'on doit aussi, on explique
les nouveautés,
aussi,
les...
est-ce qu'on a des nouveautés, ouais. Est-ce qu'on est pour les vieux, pour les jeunes, est-ce qu'on passe de la musique du monde. Alors nous, ça nous pose la question de savoir si le reggae, on le met dans la musique du monde, ou on en fait un truc à part, puisqu'il y a beaucoup de reggae sur Radio
Canut.
Et
on a une obligation de diffusion d'une certaine quantité de chansons chantées en français,
voilà.
Ou
et
en
donc,
corse, ou dans... Alors, oui, dans une langue française, en fait.
Le Alors, le Conseil des médias donc, a dit à deux reprises, le rapport hebdomadaire de diffusion a eu du retard. Pourtant, Club Radio explique, on a payé les amendes relatives à ces retards qui étaient de quelques jours. On a toujours, malgré tout, rattrapé nos problématiques. Et donc, ça se termine par, vous êtes viré. C'est ça, hein, quand même. Hein, vous savez, le gouvernement français a sorti un site qui s'appelle oups.gouv.fr. Ben là, ils en ont pas eu le droit avec Club Radio, ils ont pas pu faire « Oups, on s'était trompé, oups, voilà ». Alors, du coup, le Conseil des médias a expliqué que Club Radio pouvait se porter candidate à la même fréquence, c'est-à-dire tenter de récupérer sa fréquence, comme si ça allait pouvoir être possible. Club Radio estime que c'est illégal, va tenter de faire de nouvelles... passage devant la justice pour faire tomber tout ça. Pour l'instant, il y a déjà eu un tribunal mardi qui a jugé que, la requête... ne pouvait pas être jugé par ce tribunal, puisque ça dépassait ses compétences. Donc globalement, tout le monde l'a fait, mais on laisse donc une radio indépendante devenir inexistante sur les ondes hongroises. C'est un vrai problème quand même, et puis on aimerait bien savoir ce que fait évidemment l'Union européenne dans ces cas-là. On a beaucoup entendu parler de cette affaire de censure chinoise contre programmes étrangers. La censure, elle est à nos portes, et on sent quand même l'Union européenne beaucoup moins active quand il s'agit d'aller taper sur M. Orban. Alors on a bien eu des choses qui disent « Oulala, il faudrait quand même agir, vous allez contre le droit de l'Union européenne ». La censure, c'est mal, mais finalement, ça va un peu nulle part, puisqu'il y a de plus en plus de médias en Hongrie qui sont aujourd'hui touchés par cette problématique. Quand c'est pas des problématiques financières, c'est-à-dire que, par exemple, Club Radio avait perdu les annonceurs publicitaires, les revenus publicitaires. Donc ça avait déjà noyé les comptes, d'un seul coup c'est pareil, tu claques dans les doigts, t'es un régime fasciste autoritaire, et puis d'un seul coup tout le monde quitte un média et plus personne ne veut financer. Donc c'est évidemment très très inquiétant, et c'est sur ces questions-là qu'il faut que nous aussi en France on se questionne, c'est demain qui pourra arriver au pouvoir et intervenir sur les médias. Je parle pas que de Radio Canu, mais de tous ces médias qui ont aujourd'hui, en particulier les radios, des fréquences, qui existent, mais ça peut être des télévisions aussi, ou la presse. Sur Internet, pour l'instant, on n'est pas en Chine, donc il y a moins de blocages, bien évidemment. Mais on sent que c'est aussi ça qu'il faut qu'on surveille. Qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections? Qui peut arriver? Qu'est-ce qu'il y a dans les programmes? Et le danger, il vient un peu de partout, il faut quand même le dire.
Oui, alors toujours sur les médias, juste une petite info. Si vous allez sur le site de la CRIMED, l'assaut qui critique les médias, il y a une super interview d'un ancien rédacteur en chef de Science et Vie. Science et Vie, qui est le journal de vulgarisation scientifique le plus vendu en France, c'est 4 millions tous les mois, c'est énorme, a été racheté une nouvelle fois, ça change régulièrement, de temps en temps, et il y a un impact important. Et l'ancien rédacteur en chef explique pas mal de choses, et c'est intéressant de voir les enjeux économiques, notamment des nouveaux gros groupes là, qui se montent pour phagocyter un peu tous les médias qui seraient en difficulté. Alors, ce qui n'est pas le cas de Sciences et Vie, mais ils ont quand même racheté. C'est intéressant. Je vous laisse aller voir sur le site de la CRIMED.
Je voulais juste parler un petit peu de Facebook en Australie, qui a restreint le partage d'articles et de vidéos d'informations. C'est des représailles. À une législation qui est étudiée au Parlement australien, qui exigerait que Facebook, Google et consorts négocient avec chaque média une rémunération en fonction du trafic que les titres génèrent. Alors, le truc, c'est que s'il n'y a pas d'accord, le gouvernement va se mettre en arbitre. L'État va se mettre en arbitre, et il y a à la manœuvre les gros groupes de presse australiens, News Corp et Nine Entertainment, qui expliquent que les compensations pourraient s'élever en millions de dollars. Donc évidemment, Facebook n'est pas d'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une coupure, mais le problème de cette coupure, c'est qu'elle a touché les services de secours en Australie qui actuellement là sont beaucoup sollicités parce qu'il y a eu des problèmes. Vous savez, l'Australie c'est un drôle de pays où il peut y avoir des incendies à un côté, puis de la neige de l'autre côté, et en plus il y a le Covid, et là surtout il y a des inondations, donc il y avait des alertes qui passaient par
Facebook. La neige en Australie c'est pas tous les jours.
Non, mais c'était, il y a des inondations, mais c'est pour dire qu'il y a du froid, c'est ouais. Ça que je voulais vous dire. Là il y avait des informations qui passaient hein, par les réseaux sociaux, ouais. Ce qui annonce encore une fois que ben, peut-être qu'il faut arrêter d'utiliser ces réseaux privés pour donner une information essentielle à la population, qui est de savoir comment circuler, comment réagir à des problématiques en Australie avec le feu, par exemple, qui est extrêmement important. Mais là, il y avait des cyclones aussi, les feux de brousse, les épidémies, enfin, tout était important. Et puis, il y a même des sites comme Human Rights Watch qui ont été bloqués aussi et qui gueulent un peu, quand même. Et le gouvernement australien a fait savoir qu'en plus, ça, par contre, les sites conspirationnistes, eux, continuent à pouvoir délivrer de l'information. Évidemment, c'était un problème, puisqu'il n'y avait plus de marge de manœuvre avec de contrepoints, si vous voulez. Alors, évidemment, encore une fois, les groupes de presse ont des sites et en même temps utilisent Facebook pour exister, Twitter pour exister. Alors, Facebook, la multinationale, a des arguments. Hein, d'abord, explique, dans son communiqué du 17 février, « Nous faisons face à un choix désagréable. Essayer de nous conformer à une loi qui ignore les réalités de la relation, sous-entendu entre le réseau et les éditeurs, ou bien cesser d'autoriser les contenus informatifs sur nos services en Australie. Avec le cœur lourd, nous choisissons la deuxième option. » Bon, déjà on se dit, ah, bah ouais, ok. Et puis, il y a eu d'autres commentaires par le directeur de Facebook en Australie, par exemple, qui explique pourquoi il y a une Facebook décide de réagir différemment de Google. Google a signé, hein, il signe un petit peu partout des accords. Alors, Facebook explique, le moteur de recherche de Google est inextricablement lié aux infos et les éditeurs de presse ne fournissent pas volontairement leur contenu. En revanche, sur Facebook, ils choisissent de publier les nouvelles parce que cela leur permet de vendre plus d'abonnements, de faire croître leur audience et d'augmenter leurs revenus publicitaires. Donc l'idée pour Facebook, c'est de dire, mais attends les gens, c'est ils volent.
C'est eux qui viennent publier, c'est pas moi.
Ils ont besoin de nous. Nous, est-ce qu'on a besoin de nous deux? On ne sait pas. Hein, en tout cas, c'est la question que se pose Facebook. Et c'est la différence avec Google. Pourquoi Google bah, va aller signer des accords dans le monde, comme en France hein, dernièrement. Mais pourquoi Facebook ne voudrait pas le faire? Alors, il y a cette bagarre hein, qui est en cours. Google, je vous le disais, avait aussi menacé l'Australie de suspendre ses services. Et puis, on apprend qu'il y a un accord qui va être passé News Corp. News Corp, hein, vous savez, c'est Rupert Murdoch, hein, il faut s'en souvenir. Hein. C'est pas un super groupe, quand même. Puis Google va payer des sommes assez importantes hein, quand même aux éditeurs de presse. En France, on sait que Google a ouvert le porte-monnaie, mais ça se passe un petit peu de partout comme ça. Ce qui est attaqué aussi comme par le gouvernement australien, c'est que Google et Facebook, ça capte la majorité des recettes publicitaires numériques mondiales et que... ils accusent donc Google et Facebook de finalement d'être une concurrence déloyale, si vous voulez, pour les éditeurs de presse qui n'arrivent plus à trouver assez d'annonceurs pour faire vivre leur site et leur papier. Là encore, on pourrait quand même largement critiquer sur le fait qu'effectivement, bah, c'est le problème de vouloir vivre avec de la publicité pour faire vivre ces organes de presse. C'est-à-dire que c'est tout le monde est interdépendant et que quand vous avez des mastodontes qui arrivent sur le marché, bah, ils vous prennent tout et que du coup, les autres ont du mal à s'en sortir. Voilà, bon, on va se voir comment la guerre va se terminer. On en reparlera peut-être la semaine prochaine.
On va aller en Espagne maintenant. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu pas mal de manifs, d'altercations, voire d'affrontements avec la police à Madrid et à Barcelone hier soir. Alors, c'est toujours l'affaire suite à l'emprisonnement du rappeur catalan Pablo Hasél. Donc, on a pu voir à Madrid des centaines de personnes, voire presque plus, hein, rassemblées sur la Puerta del Sol. Fortement gardé par les forces de répression espagnoles, hein, qui n'ont pas l'air de rigoler non plus, hein. Derrière des banderoles qui clamaient, grosso modo, à cette censure, liberté, enfin des mots comme ça. Bon, les affrontements ont fait quelques blessés, et puis surtout des arrestations, alors au moins 14 à Madrid. Alors le maire, qui est de droite de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a condamné bien évidemment les violences. Il a dit, je cite, « Les personnes violentes et ceux qui n'acceptent pas les règles, donc les autres manifestants aussi, mais ils ne sont pas violents, hein, quelque part, n'ont pas de place dans notre société. » Lui, il est dans le parti de droite, mais il est quasi à l'extrême droite. Hein. Donc on doit accepter les décisions comme ça, on doit fermer sa gueule, grosso modo. bizarrement, il n'a jamais, lui, défendu la liberté d'expression. Il a pris son camp, il est contre la liberté d'expression. Puis il ne doit pas aimer le rap de ce rappeur. Alors il y a eu ça aussi à Barcelone, bien évidemment. Les manifestants, ils étaient presque plus virulents. Ils avaient monté des barricades, ils ont mis le feu aux barricades. C'était joli, toi. Il y avait de belles images. Bon, ils ont eu droit à leurs tirs de balles en caoutchouc, traditionnels, hein, des forces de répression de l'État. Voilà, pareil, bon, quelques blessés et puis 29 personnes arrêtées, quand même, parmi, bien évidemment, les manifestants et les manifestantes. Il y a eu ça à Lleida, alors c'est une petite ville, là où réside le rappeur incarcéré, en fait, au départ, mais il y a eu aussi ça à Tarragone, à Gérone. C'est un truc assez, du coup, qui s'est pas mal développé en Espagne, suite à l'arrestation de ce rappeur. Mardi, il y avait déjà eu, donc hier c'était mercredi, c'est hier soir, mardi, il y avait déjà eu des manifestations dans pas mal de villes, déjà des arrestations, déjà des blessés. Alors, on va me dire, ce rappeur, c'est qui ? C'est un révolutionnaire, un anarchiste ? Non, pas tant que ça. En fait, il a fait un tweet, enfin plusieurs tweets. Et dans ces tweets, il malmène, voire il insulte, les forces de répression, les flics espagnols. Et surtout, c'est là, le blasphème absolu. Il s'en prend à la monarchie. Et encore aujourd'hui, en Espagne, il ne faut pas toucher à ce système horrible, cette hérédité de pouvoir qu'est la monarchie espagnole. Alors lui, c'était lundi, que tout s'est joué pour lui. En fait, il est enfermé dans l'université de Lérida avec quelques amis à lui. Ils ont essayé de résister, la police est venue, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis directement en tôle. Alors il avait été condamné en 2018 hein, pour ses tweets et pour ses propos. À l'époque, ça avait fait réagir. Hein. Pedro Almodovar, Javier Bardem, pas mal de gens comme ça, célèbres et d'autres pas célèbres, s'étaient mobilisés pour dire « mais non, c'est la liberté d'expression, on ne peut pas mettre, comme dans n'importe quelle dictature chinoise, les gens qui s'expriment en prison ». Eh ben si, ça fait rêver hein, la monarchie parlementaire, hein. Qu'elle soit espagnole ou autre, ça rigole pas. Donc voilà, en Espagne, donc Hazel, pour l'instant, est en prison. Alors, il y a quelques années, il y avait un rappeur aussi qui avait tenu des propos qui n'avaient pas plu. Il s'était barré, lui, en Belgique, je crois, ouais, pour échapper à cette justice pas drôle du tout.
Et puis, on pourra juste rappeler qu'en France, on n'a peut-être pas monarchie, mais on a des présidents qui n'aiment pas, qu'ont les critiques et qui appellent rapidement à l'insulte, au blasphème. Hein, là, dernièrement, hein, c'est cette femme hein, qui a quand même, dont on a beaucoup parlé d'une manière générale dans les médias, qui a vu les gendarmes débouler pour faire enlever des panneaux dans son jardin. Ouais. Qui soi-disant insultait, était blasphématoire ou je ne sais quoi hein, pour Monsieur Macron. Ouais. Contre Monsieur Macron, bon, je veux dire, de partout, de toute façon, les gens au pouvoir n'aiment pas qu'on puisse avoir de la critique. Ouais.
Pour l'instant, on met moins en prison quand même, a priori,
qu'en Espagne. Je suis d'accord. Mais M. Sarkozy avait eu aussi hein, ce genre de réflexe.
Alors, on reste en Espagne et on va faire juste un petit bilan des dernières élections locales qui ont eu lieu il y a quelques jours. Là. Alors, les deux enseignements principaux que vous avez peut-être entendus, alors ça parle de la Catalogne, hein, au nord de l'Espagne. Le Parti Socialiste a fait le plus gros score, 23,02%. Donc, une très très forte progression. En fait, l'alliance des partis indépendantistes devient majoritaire, est à nouveau majoritaire, on va dire. Voilà. Ça, c'est les deux enseignements principaux que tout le monde a tenus dans les médias pour parler de cette élection. En Espagne, tout est mélangé, tout est douteux, parce que c'est plus les idées politiques, en Espagne, en Catalogne surtout, c'est plus les idées politiques qui comptent, le social, la gauche, la droite, l'extrême droite, tout ça, c'est indépendantiste ou unioniste, enfin on ne dit pas unioniste, mais garder rester dans l'État espagnol. Et du coup, il y a des alliances vraiment nauséabondes, d'indépendantistes qui sont plutôt à gauche avec de l'extrême droite parce qu'ils sont indépendantistes. Voilà, on arrive à des trucs qui donnent juste envie de vomir. Et l'autre truc qui a donné envie de vomir, bah c'est quand même l'arrivée au Parlement de Catalogne de Vox, donc le parti d'extrême droite, 7,69% des voix. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, ils ont piqué des voix un peu au Parti Populaire, le PP, qui est le parti qui dirige Madrid, par exemple, mais qui n'a jamais été très fort en Catalogne. Et puis surtout à Ciudadanos, parti de droite plutôt dur, qui était sous-entendu une nouvelle droite, mais plutôt dur, et qui, eux, ont le même discours que l'extrême droite, mais qui avait fait 25%, et là, ils sont passés à 5,5%. Du coup, ces voix-là, elles sont parties en partie chez l'extrême droite. Il y a eu pas mal d'abstentions, il faut dire qu'on fait un scrutin pendant des périodes d'épidémie, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui en Espagne. C'est pas très glorieux, il n'y a pas beaucoup d'espoir entre les indépendantistes, dont une partie est totalement infréquentable, les socialistes qui sont pas beaucoup mieux, la droite qui a toujours été un peu d'extrême droite, hein, on rappelle qu'elle a soutenu la mémoire de l'ancien dictateur et qu'elle soutient toujours depuis très longtemps, l'Église qui joue un rôle trouble en soutenant toujours la mémoire de Franco, voilà, c'est pas très bon, et pendant très longtemps on pensait que l'extrême droite n'existerait pas parce que la droite était déjà très forte, et ben Vox vient à démontre le contraire depuis quelques années maintenant, et c'est triste quand même. Alors je continue avec une bonne nouvelle dans les solidarités. Alors il faut pas une bonne nouvelle, mais des choses qui peuvent être un peu positives. J'avais parlé hein, de Madama la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus, et sur le couple, notamment Éric Durupt qui est en garde à vue encore lui, en grève de la faim. Là, il y a eu une manif hier matin au Puy-en-Velay, une manif d'au moins 800 personnes. Donc il y avait cet enseignant pour qui est en grève de la faim donc depuis 19 jours, toujours en soutien à Madama pour qu'il obtienne un titre de séjour. On rappelle à Madama, il est arrivé en France en 2018, long et périlleux périple d'un migrant hein, qui fuit un pays en guerre, etc., qui arrive en France, qui est accueilli par des gens très sympathiques, et dont notamment Eric et sa compagne Véronique, qui s'occupent de lui, qui deviennent son tuteur. Et puis là arrive la préfecture avec ses gros sabots et qui lui dit bah, c'est plus possible, il faut, maintenant qu'il va être majeur, parce qu'avant tant qu'il était mineur il pouvait rien faire, maintenant qu'il est majeur il faut qu'il se barre. Voilà, grosso modo, la politique assez traditionnelle, raciste et xénophobe hein, de l'immigration en France. Voilà, si vous risquez pas la mort à 100%, vous êtes renvoyé de là d'où vous venez. Tant bien que mal. Et du coup, il y a une belle mobilisation. Au début, ils étaient 300. Et puis, petit à petit, alors des jeunes, notamment, sont venus, des lycéens, alors que c'est les vacances hein, dans notre région. Ça a fait plaisir. Il s'est monté jusqu'à 800. Alors, la presse locale dit 600. On va plutôt croire les manifestants et les manifestantes. Donc, une réussite. Hein, puis, en vrai, 20 000 habitants. Hein. Donc, ça fait une belle mobilisation. Alors, pour l'instant, le préfet est totalement sourd à la mobilisation. Il a même été alors, très loin lundi, alors c'est avant la manif, puisqu'il a convoqué le jeune Malien. Pas du tout pour régulariser sa situation, oh non, mais pour lui proposer un peu d'argent pour qu'il se barre. Hein, une aide au retour, comme on dit dans le langage policé de la préfecture. Donc voilà, la famille a refusé, et lui aussi avait refusé, la famille d'adoption qui s'occupe de lui. Alors, le préfet, hein, c'est lui qui est le bras armé de la politique nauséabonde hein, de l'État français. Il considère que les documents reçus du Mali sont faux. Comme ça, lui. Alors que pas mal d'assauts, de structures qui s'occupent de la protection des mineurs notamment, disent que les papiers sont vrais. Hein. Comme quoi, les avis divergent, ça dépend de l'envie qu'on veut. Puisque derrière, il y a à mon avis pas mal de manipulation. Donc le bras de fer continue. Mais ce qui est important, c'est que le soutien, il tombe pas. Donc hier, 800 personnes, ça continue de faire pression. On espère que le fameux OQFT, l'obligation de quitter le territoire français qui a été émis par la préfecture, n'aille pas jusqu'au bout et que Madama puisse rester. Il y a deux recours, un recours au tribunal administratif et puis un autre recours. Et puis, de toute façon, après, il y aura d'autres recours. Voilà, bon courage, continuez de lutter, parce que c'est voilà, plutôt positif. C'est encore à moi ou tu fais ton... Enfin, vas-y, fais ton oxyde d'éthylène. Ça y est, j'ai lu le truc, c'est l'oxyde d'éthylène, le produit pourri qu'ils nous rajoutent dans des produits pourris.
Comment t'as tout raconté avant
j'ai
que ce
teasé,
soit la fin.
J'ai tout teasé.
Alors, je vous le disais, depuis le 9 septembre 2020, grâce à la Belgique, on a une première alerte. On apprend donc qu'il y a cette substance, l'oxyde d'éthylène, dans des graines de sésame. Et que ces graines de sésame, ce sésame vient d'Inde. Et qu'il y a des teneurs trop élevées d'oxyde d'éthylène dans ce sésame. Et que c'est dangereux. Alors je vous rappelle hein, que c'est un pesticide qui est utilisé...
Ah oui, parce que je ne connaissais pas du tout l'oxyde d'éthylène.
C'est un pesticide qui est utilisé en gaz par dans l'agriculture, par l'industrie chimique, hein, qui est classé depuis 1994 parmi les agents cancérigènes pour les êtres humains par le Centre international de recherche sur le cancer, cancérigène, toxique pour la reproduction, et donc c'est une substance mutagène, que du bon.
Oui, c'est ça. Là,
que du bon, t'as tout que ce du qu'il bon, faut, que là. Du bon. Alors, ce qu'on est sûr maintenant, hein, depuis le mois de septembre quand même, c'est qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'une fraude, puisque ça a pris une ampleur absolument considérable. C'est donc bien la filière indienne qui est à la manœuvre. Il s'agit bien d'une fraude dans le sens où ce produit est interdit en France. Il ne devrait pas être là, et c'est pas juste un accident, hein, ça a été déversé, puis les produits avec du sésame se sont retrouvés dans des produits français. C'est bien qu'en fait c'est passé à travers, et que c'est un gros problème. Alors, c'est utilisé hein, pour décontaminer des plantes, le sésame, et c'est un traitement qui finalement est facile, c'est très efficace, mais c'est interdit dans l'Union Européenne et donc en France. Et il y aurait à peu près là une quinzaine hein, d'expéditeurs indiens qui sont concernés, donc c'est un gros machin quand même. Il faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est encore utilisé.
Oui.
Hein, c'est pas toujours très très en avance. Et donc,
normalement, quand tu exportes en Europe, tu dois pas exporter des produits qui contiennent. Des aliments qui contiennent les produits qui sont interdits en Europe.
Alors,
même des fois, c'est beaucoup plus hypocrite que ça.
Donc, le problème, c'est que l'Europe l'interdisant, elle se dit, je l'interdis. Ce qui fait que c'est un produit qui n'est pas recherché quand les produits rentrent sur le territoire de l'Union Européenne. En France, le produit n'est pas recherché. Et là, c'est parce que d'un seul coup, il y a eu un scandale. Et parce que la Belgique a sonné... alors, il y a eu un scandale. Aujourd'hui, il y a un scandale. Mais en septembre, quand la Belgique tire la sonnette d'alarme pour donner une information, on a des produits qui sont contaminés. D'un seul coup, il faut se mettre à rechercher le produit alors que plus personne ne le faisait, si vous voulez.
Donc ça se trouve, ça fait 15 ans que l'Inde nous envoie des produits pleins de ce produit cancérigène.
Alors déjà en 2015, hein, il y avait de l'oxyde d'éthylène qui avait été retrouvé dans du poivre noir. Ça arrive souvent dans les épices, là ça venait du Vietnam. En 2018, c'était du poivre noir qui venait d'Inde. Et donc là, on se retrouve maintenant avec ce produit qui venait aussi... Alors, en 2019 aussi, on avait des graines de cumin qui étaient contaminées. Alors, il y a des rappels de produits qui ont été mis en place. Évidemment, c'est long. Pourquoi c'est long? Et c'est là où il y a des gros problèmes. Et ça va vous rappeler des trucs avec la petite crise sanitaire. C'est quand même comme je vous le disais, le produit n'est plus recherché. Et donc, il s'avérait qu'en Union Européenne, il n'y avait plus qu'un laboratoire qui était en capacité de recharger cette merde dans nos produits. Il a donc fallu remettre en place une filière de détection, ce qui n'a pas été évidemment possible du jour au lendemain. Et puis, c'est parce que d'un seul coup, la filière se remet en place qu'on se rend compte que catastrophe, il y en a dans plein de produits.
Oh,
et donc, ça concerne évidemment les graines de sésame sous forme de graines que vous allez trouver en sachet, mais on va les retrouver au fur et à mesure dans les huiles. Et puis là, d'un seul coup, dans l'huile, on se rend compte qu'en fait, c'est pas juste les produits qui sont datés de 2020 qui sont contaminés, mais des produits qui étaient plus vieux, dont certains d'ailleurs sont même plus bons à la consommation. Donc on se rend compte qu'il y a une contamination qui est plus ancienne. Et puis on se rend compte aussi que c'est dans les produits, le sésame, il y en a un peu de partout. Hein, vous allez en avoir sur du pain à burger, par exemple, dans des gâteaux, des biscuits, et même dans le bio. Donc c'est un produit qu'on va retrouver partout, et en plus de ça, parfois le sésame il est caché, c'est-à-dire que c'est pas l'ingrédient phare qu'on vous dit, machin, pain, burger au sésame, biscuit au sésame bio, machin, tout ça. C'est un produit qui est un peu caché, donc on se rend compte que d'un seul coup la liste, elle est absolument exceptionnelle, hein. Biscottes, biscuits apéritifs, biscuits sucrés, burgers, céréales, dans les confiseries, dans le chocolat, dans les épices, dans les farines, les compléments alimentaires, les aides culinaires, le fromage, même dans l'houmous, dans les huiles, dans les sauces, dans le pain, dans les plats préparés.
Dans l'houmous, il y a de la pâte de sésame, ouais.
Et voilà, et alors là, c'est une déferlante. Une déferlante de produits. Il y a 3600 références qui, pour l'instant, sont pointées du doigt. Il y a eu des milliers de rappels, mais tout ça aussi très très long. C'est-à-dire que malgré tout, aujourd'hui, vous trouvez encore des produits dans les rayons qui sont rappelés, parce qu'ils ont été désignés comme contaminés, en tout cas dangereux potentiellement, et qui sont pourtant toujours en rayon. Donc se pose un deuxième problème, c'est on n'a pas pris de précaution, on n'a pas enlevé des produits. Certains fabricants l'ont fait, hein, se sont dit « oulala, je préfère retirer tous mes produits, et puis on va voir ». D'autres n'ont pas bougé, vous ont laissé bouffer hein, du miam miam sous forme de pesticides. Ça a été donc une deuxième étape un peu longue aussi à mettre en place. Et puis, on s'aperçoit qu'à l'heure... que maintenant, il y a d'autres produits qui sont contaminés et qui ne sont plus du sésame. C'est-à-dire que ça touche d'autres produits qui viennent d'Inde, mais aussi du Vietnam, par exemple, et qui sont contaminés par ce pesticide que, encore une fois, la France avait arrêté de chercher. Donc on se rend compte que c'est une contamination qui dépasse le sésame, et c'est là où commence le scandale un petit peu, parce que ça touche des produits, c'est immense, et qu'on se retrouve avec une contamination qu'on ne sait pas gérer, et qu'on ne sait pas encadrer très rapidement. Alors, le problème, évidemment, qui est soulevé aujourd'hui, c'est aussi ce qui vient d'Inde. Hein, on parle beaucoup de la Chine, mais en termes de produits alimentaires un petit peu sulfureux, l'Inde est bien placée, hein, parce qu'il y a pas mal de produits qui sont parfois contaminés, on le sait. Maintenant, comment on va pouvoir gérer à long terme ce problème puisqu'il y a des gens qui pensent que même la contamination... Alors, c'est, par exemple, Ducros qui appartient au leader mondial des épices et du machin, McCormick, j'avais perdu le nom, veuillez m'excuser, explique qu'en fait, il y a une contamination qui n'est pas directe. C'est-à-dire que ce ne serait pas sur leurs produits, parce qu'ils disent que leur producteur en Inde serait absolument parfait, insoupçonnable, mais que ça serait que des contaminations qui se font dans du stockage. Et que ce stockage-là, il y aurait une contamination, vous savez, hein, hop, ça se répand un petit peu d'un côté à un autre. Et donc ça serait un nouveau problème aussi sur la manière dont sont gérés les produits, finalement, dans des pays comme l'Inde ou le Vietnam. Alors, bon, on ne sait pas bien où ça va s'arrêter, parce que la liste des produits ne cesse de s'allonger quand même depuis le 9 septembre. On a eu une deuxième liste en octobre, je crois que c'était le 20 octobre. On a eu une deuxième liste là en janvier, puis enfin, une troisième liste. Puis là, au 4 février, les listes sont absolument gigantesques. Hein. Vous pouvez aller sur le site de la DGCCRF, répression des fraudes, OTP, ça marche à peu près aussi, pour aller chercher ce genre de choses. Donc, ça pose des soucis, hein, évidemment, pour les producteurs qui se demandent comment stériliser tout ce bazar, comment éviter l'oxyde d'éthylène dans leurs produits, que ça soit par une contamination directe utilisée par des gens sur place ou par une contamination qui viendrait d'un truc et d'un autre. Alors, reste qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui travaillent sur ces questions, hein, qui tentent de mettre des rapports. Pour l'instant, il se passe quand même pas grand-chose. On a quand même un système qui montre qu'on n'est pas capable de gérer une contamination d'un produit à grande échelle à travers l'Union européenne, puisque on arrête de chercher les contaminants et que encore la différence de la France, c'est qu'elle cherche 12% de plus de contaminants que l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en France, on cherche plus de contaminants qu'ailleurs, mais on n'en cherche vraiment pas beaucoup au final, et que les industriels, l'agroalimentaire, finalement, assez peu contrôlé sur ce qu'il peut y avoir dans ces produits.
Ben pour terminer ce qui est une info, on va faire une petite rubrique ni Dieu ni maître, et je vais reparler du blasphème. Alors il y a eu quelques cas de blasphème hein, ces derniers temps, au Pakistan, je crois, dans les pays où la religion est très très forte. Là je vais aller dans un pays d'Europe où la religion est très très forte aussi, puisqu'on va aller en Pologne. Un magnifique pays la Pologne. Sur la liberté, il n'y a plus.
Je crois qu'ils s'attaquent aussi à leur presse un petit peu.
À tout le monde, la Pologne c'est triste. Et aujourd'hui c'est Nergal qui a fait parler de lui, enfin hier très exactement. Donc Nergal, chanteur du groupe de black metal polonais Behemoth, qui a été condamné mardi à une amende pour l'instant pour avoir offensé des sentiments religieux. En fait, ça concerne a priori 4 personnes. Ça fait, voilà. Bon, on est comme ça en Pologne. Donc il a été reconnu coupable par un juge du tribunal régional de Varsovie, condamné à une amende de 15 000 zlotys, ça fait 3 336 euros, lors d'une procédure sur lequel il n'était pas présent, c'était pas obligatoire, et il n'a pas envie de venir. Je ne suis même pas sûr qu'il soit en Pologne en ce moment, Nergal. Donc le musicien, il s'était amusé à montrer une image de la Vierge Marie piétinée. Voilà, bon. C'est pas surprenant, si vous, Behemoth et son black metal, c'est une musique qui est ultra satanique, ultra blasphématoire, c'est sur leur créneau d'aller jusqu'au bout de cette provocation anti-chrétienne, parce qu'ils voilà, ils ont grandi dans un pays où la religion chrétienne étouffe un peu tout le monde, et du coup en réaction ils ont cette musique ultra revendicative contre cette mainmise de l'église sur l'ensemble de la société polonaise, quasiment. La musique comprise, du coup. Voilà. Alors, la loi polonaise sur l'offense aux sentiments religieux est souvent critiquée parce qu'elle limite énormément la liberté d'expression. Elle prévoit quand même jusqu'à 2 ans de prison pour une personne qui est dite blasphématoire. Alors, blasphématoire, je vous rappelle, si vous dites, parce que vous êtes rationaliste ou athée, que Dieu n'existe pas et que tout est inventé, c'est du blasphème. Donc ça va très vite. Si vous avez votre propre opinion, c'est foutu. Voilà. On rappelle que récemment, il y a trois militantes des droits homosexuels qui ont été accusées aussi d'avoir offensé les sentiments religieux. Alors, ils avaient collé des affiches de la Vierge Marie auréolée d'un arc-en-ciel. Donc, c'était gentillet, toi. Mais non, l'arc-en-ciel, symbole des gays associé à la Vierge Marie, ça a choqué des chrétiens. Donc voilà, ils avaient été condamnés. Donc, alors Nergal a décidé de pas accepter le jugement, de faire appel. Du coup, pour l'instant, le jugement est suspendu. Bon, ils avaient fait aussi, je crois, déchirer une Bible une fois en concert, ça s'était mal passé avec les autorités religieuses et à la tête du pouvoir. On rappelle, c'est le PIS hein, qui est au pouvoir, c'est-à-dire l'extrême droite chrétienne, orthodoxe pour dire le vrai nom, polonaise. Et on rappelle que, alors vous me direz, c'est pas très grave, c'est 3000 euros d'amende, il a les moyens de payer, il tourne de partout dans le monde avec son groupe, il n'y a pas de souci. C'est moins grave que le recul sur les droits des femmes. Hein. On rappelle que récemment, la loi sur l'IVG a été dramatiquement détruite. Aujourd'hui, en Pologne, pour avoir une interruption volontaire de grossesse, il faut avoir subi un viol, un inceste ou que la vie de la mère est en danger. Il n'y a quasiment plus d'IVG possible en Pologne. Mais c'est juste symboliquement sur un groupe, un des groupes les plus célèbres de Pologne. Ça montre que l'influence de la religion sur les libertés, elle est toujours ultra néfaste, ultra négative. Et voilà, on s'attaque à un Nergal, mais il s'attaque en fait à tout en Pologne, tous ceux qui osent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette église chrétienne orthodoxe réactionnaire et le pouvoir associé, bien sûr, avec le PIS notamment. Donc voilà ce que je voulais dire sur... Je fais qu'un blasphème aujourd'hui, mais j'aime bien Nergal. Il n'est pas du tout fréquentable, en fait. Hein. Je vous le dis comme ça. Hein. Mais bon, c'était symbolique.
On va vous laisser là pour ce jeudi 18 février 2021. On espère bien, évidemment, vous retrouver la semaine prochaine sur cette antenne du 102.2, puisque nous avons encore la chance quand même d'avoir une antenne hein, dans ce pays. On en profite, évidemment, hein, pour vous raconter plein de choses dans tout plein d'émissions, pour vous faire découvrir tout plein de musique d'ici, d'ailleurs, locale, internationale. On se retrouve donc, je vous l'ai dit, la semaine prochaine. On vous souhaite une bien bonne soirée, une bien bonne fin de semaine. Restez à l'écoute, il se passe toujours plein de choses sur Radio Canu. Attendez, il y a Laurent qui veut vous dire des trucs.
On a appris que tous les festivals étaient foutus, que la jauge serait autorisée qu'à 5000 personnes. Et Nergal, il jouera pas au Hellfest cette année. Voilà.
Alors, c'est là où, évidemment, on a du débat avec Laurent sur cette question, puisqu'il nous reste 4 minutes. C'est que, d'abord, la culture, c'est pas que les festivals, même si malheureusement, en France aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'événementiel sur de la culture en termes de musique ou de théâtre, ou d'autres d'ailleurs, spectacles vivants. Donc, on est sur des phénomènes de financement très courts. Donc, il faut maintenir une culture pérenne, continue. Et puis le festival en France, c'est quand même le pays du festival, des festivals et des types de festivals. Et il n'y a pas que des gros machins en France. Et que donc, moi j'espère que les petits festivals, alors petits festivals, pardon, mais quand tu es déjà à 1000 ou 2000, c'est déjà pas mal. Par soirée, c'est déjà tu rassembles du monde. Mais la plupart des festivals en France sont quand même aussi du 300, du 500 personnes par soirée. Et moi j'espère que c'est ceux-là qui vont vivre de festivals, parce que c'est aussi ça la culture, c'est pas que les rendez-vous au Stade de France où on est des milliers les uns et les autres à ovationner des stars. Non, c'est aussi des gens qui sont des artistes du quotidien, qui font vivre la culture en France, qui font vivre sa diversité. Donc c'est malheureux que les gros festivals, évidemment, se prennent dans la tronche ça. Je suis désolée pour le Hellfest, bien évidemment. C'est un festival qu'on ne peut que soutenir parce que ça emmerde les cathos tous les ans. Mais au-delà de ça, c'est évidemment, vrai. Musicalement, c'est vraiment toujours un grand rendez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie culturelle, elle va pas s'arrêter parce que demain, les Eurokéennes ne pourront pas exister, parce que le Hellfest se retrouve embêté. La vie culturelle française, elle va exister parce qu'il y a du spectacle vivant qui existe au quotidien. Et moi, je souhaite que les artistes, là, tous ceux qui habitent à côté de chez vous, dans votre immeuble, en bas de votre rue, eux et elles puissent travailler. Et ils sont nombreux et nombreuses, qu'on puisse retourner au cinéma, au musée. C'est une ville, c'est vraiment une vie complète et il n'y a pas que du gros. Donc on entend beaucoup parler que des gros dans les médias. Évidemment, ils ont une antenne et une possibilité de parler. Mais les petits, j'espère bien qu'ils vont pouvoir vivre parce qu'ils ont des capacités avec des mesures sanitaires plus faciles à mettre en place.
Voilà, du coup, eux, ça devrait marcher.
Et bah, tant mieux, la culture, c'est ça aussi. On n'est pas tous obligés de vivre la culture par milliers. On peut déjà la vivre par dizaines. Il y a plein de petites salles à Lyon, hein, où on est 50, 40, 60, moins de 100 en tout cas, et ben, on leur souhaite de vraiment arriver à réouvrir. Alors, ça va être encore plus dur aussi, parce que quand vous avez un fauteuil sur deux, c'est très compliqué, mais voilà, ne pensons pas qu'au grand spectacle vivant, mais pensons à toutes les petites sources de plaisir que nous allons pouvoir retrouver. Allez, sur ce, on vous laisse et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!